Bonjour, bienvenue sur TV5 Monde, bienvenue dans International, émission réalisée comme chaque semaine en partenariat avec le journal Le Monde, journal représenté aujourd'hui par Simon Roger. Bonjour Simon.
Bonjour.
C'est la fin d'un cycle de 8 ans, 8 années de recherche pour comprendre encore mieux l'évolution du climat, son changement, pour montrer que certains phénomènes climatiques s'intensifient, que le réchauffement peut considérablement s'aggraver si des mesures radicales ne sont pas rapidement prises, mais pour montrer aussi qu'il reste encore de l'espoir et du temps, un peu de temps, pour agir. Ces recherches ont été menées par les scientifiques du GIEC qui ont publié lundi dernier un texte de synthèse, celui qui résume le 6e rapport d'évaluation, un rapport rédigé au cours de ces 8 dernières années, un document essentiel qui va servir de base de travail aux dirigeants qui vont se réunir en fin d'année lors de la COP28 et qui vont devoir prendre de nouvelles mesures, de nouvelles décisions pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Ce texte marque-t-il un tournant dans l'action climatique? Comment les États peuvent-ils s'en emparer? Et quelle suite scientifique lui donner? Pour répondre à ces questions, nous recevons Jean-Pascal Van Ipperzel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes climatologue, professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Vous êtes un ancien vice-président du GIEC et de nouveau candidat à la présidence de ce groupe international de recherche sur le climat. Vous avez écrit plusieurs livres sur le changement climatique, dont celui-ci, Une vie au cœur des turbulences climatiques, publié chez De Book. Nous parlerons de ce rapport du GIEC avec vous, de la manière aussi dont travaillent les scientifiques qui le composent. Nous évoquerons également votre candidature et votre programme pour le GIEC. Mais avant de vous entendre, Jean-Pascal Van Ipperzel, voici notre instantané.
La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder.
Voilà, pas de retraités sur une planète brûlée, retraite, climat, même combat, deux des slogans qu'on a entendus dans les rues de Paris et d'autres villes de France. C'était jeudi dernier, lors de la 9e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Que pensez-vous de ces slogans, Jean-Pascal Van Ipperzel ?
En fait, le problème des retraites, c'est un peu la même chose que le problème du climat. C'est la prise en compte ou pas du long terme et la difficulté de prendre en compte le long terme parce qu'on est confronté tous les jours aux décisions de court terme que l'on prend dans sa vie quotidienne ou que les décideurs politiques prennent. Et on voit à quel point, pour le climat, c'est difficile d'anticiper et de prendre aujourd'hui des décisions pour garder notre maison commune, la terre, habitable dans 50, dans 100 ans. Et pour les retraites, c'est un petit peu la même chose. Il faut aussi prendre des décisions aujourd'hui pour pouvoir maintenir en place le système des retraites. Il y a bien des similitudes, parce que pour le climat, il y a aussi un problème d'équité. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus vulnérables à la surface de la planète aux effets des changements climatiques. Et pour les retraites, ben, peut-être que si on différenciait davantage l'âge en fonction de la pénibilité du travail, il y aurait moins de désaccords par rapport aux réformes.
On dira un mot dans cet entretien de cette équité, de cette justice ou injustice liée au réchauffement et au changement climatique. 1 million de personnes ont défilé jeudi dernier en France, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, 3,5 millions selon l'un des syndicats, la CGT. Au-delà de ces chiffres, avant cela, chaque journée de manifestation avait réuni plusieurs centaines de milliers de personnes. Pour les retraites, à chaque fois, la lutte pour le climat, elle, n'a pas vraiment mobilisé autant et aussi régulièrement. Qu'est-ce que cela dit de notre situation et qu'est-ce que vous en dites ?
Je me souviens tout de même de très grandes manifestations en 2018-2019 lancées par les jeunes, inspirées par Greta Thunberg, qui ont quand même fait bouger les lignes dans beaucoup de pays, notamment en Europe, mais pas seulement. C'est quand même un petit peu suite à ces grandes manifestations-là qui ont quand même rassemblé des centaines de milliers de personnes, 100 000 personnes à un moment donné, rien qu'à Bruxelles, ce qui est quand même extraordinaire. Et c'est grâce à ça que d'une certaine manière, l'Europe a réorienté son modèle avec le Green Deal, l'objectif de la neutralité carbone en 2050, etc. Donc je pense qu'il y a quand même eu, à un moment donné, une mobilisation très importante sur le thème du climat aussi.
Simon Roger.
Vous mentionnez notamment donc, le mouvement Friday for Future initié par Greta Thunberg. On assiste en France, et je crois en Europe aussi, à un essoufflement de ce mouvement. Donc est-ce qu'il n'y a pas un effet de lassitude après justement les grands moments de mobilisation qui étaient ceux que vous avez identifiés vers 2019, 2020 peut-être ?
Bon, il y a le Covid qui est passé par là aussi, ça n'a pas facilité les choses. C'est plus difficile de faire des manifestations quand on doit rester chez soi. Donc il y a eu un changement de forme. Je crois que Greta, elle continue à agir. Elle a publié un livre qui a beaucoup de succès. Il a déjà dû être réimprimé dans plusieurs langues. Elle essaye de faire bouger les choses autrement. Et il y a beaucoup de jeunes qui étaient dans les rues il y a 3 ans, qui sont aujourd'hui là où ils sont, dans leurs études ou dans leur travail parfois, parce que certains ont commencé à travailler, très actifs toujours sur le climat. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment eu un essoufflement. Je crois qu'il y a eu surtout un changement de forme d'action. Mais je crois que l'intérêt et la préoccupation des jeunes et de beaucoup de citoyens par rapport à l'évolution du climat et de l'environnement est toujours bien là.
Vous êtes l'un des climatologues les plus respectés en Europe et dans le monde, Jean-Pascal Van Ypersel. Votre parole compte, porte, en Belgique notamment, votre pays, mais pas seulement. Retour sur votre carrière avec Anaïs Furtad et Christophe Arnois, c'est le focus d'International. Problème de son sur ce focus qui revient sur votre carrière. Vous avez commencé à travailler sur ce sujet, sur le climat, dans les années 70. Oui. C'est ça, quand vous étiez déjà...
Fin des années 70, j'étais étudiant et en 1979, on dit 79 en Belgique, j'ai participé comme étudiant à la première conférence mondiale sur le climat. J'ai pris le train, j'étais à l'auberge de jeunesse de Genève et c'était la première grande conférence où des scientifiques et des décideurs politiques parlaient ensemble de l'importance des changements climatiques pour l'avenir de l'habitabilité de la Terre.
Et puis vous avez très rapidement collaboré avec le GIEC aussi, hein, le GIEC qui a été créé à la fin des années 80.
Oui, donc j'ai participé à ma première réunion du GIEC en 1995. J'ai déjà, lors de cette réunion, joué mon petit rôle dans l'adoption de cette phrase très importante qui parlait de l'attribution des changements climatiques aux activités humaines. Et puis après, je suis devenu auteur du GIEC, membre du bureau du GIEC, vice-président de 2008 à 2015. Et maintenant, j'essaye une deuxième fois, effectivement, de devenir son président pour me mettre au service de la communauté internationale.
On le voit sur... ce que vous portez, votre cravate,
oui.
C'est l'une de vos signatures. Hein. Les messages que vous voulez faire passer, vous les faites parfois aussi passer avec ces cravates. Qu'est-ce qu'elle montre, celle que vous portez aujourd'hui ?
Alors, c'est l'évolution de la température. C'est un schéma qui est dû à un scientifique anglais, un collègue anglais, Ed Hawkins. C'est l'évolution de la température au niveau mondial au cours des 100 dernières années, avec l'accélération du réchauffement qui est très visible ici.
Et
la température
chaud,
a augmenté.
Ah
oui, plus c'est chaud, plus c'est rouge, plus c'est chaud. La température en moyenne mondiale a déjà augmenté de 1,1 degré. Ça n'a pas l'air d'être beaucoup, mais faites le parallèle avec la fièvre d'une personne. Nous avons 37 degrés quand nous sommes en bonne santé. Quand nous avons 1,1 degré, on commence déjà à se sentir un peu moins bien. Si on a 38,5, 1 degré et demi, on est peut-être dans son lit. 39, il est grand temps d'aller voir le médecin. Et si on continue vers des températures plus élevées, les impacts sur le corps humain sont plus importants. C'est la même chose pour la planète. La planète a la fièvre et il faut absolument s'attaquer aux causes de cette fièvre, c'est-à-dire la combustion des combustibles fossiles.
Simon Roger.
Vous portez aussi sur votre costume un badge qui me semble être le badge des ODD, des Objectifs de Développement Durable.
Oui.
Vous pouvez nous en dire deux mots, parce que ça fait partie des concepts très, très importants, très intéressants, mais pas forcément faciles à comprendre et à appréhender par le grand public.
C'est vrai.
Les ODD.
C'est vrai. Et en même temps, c'est très simple. Ce sont les 17 objectifs de développement durable qui ont été adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies à l'unanimité 2 mois avant l'accord de Paris. Le premier objectif, c'est l'élimination de la pauvreté. Je crois que tout le monde peut comprendre ça. Le deuxième, c'est l'élimination de la faim, etc. Il y a aussi la lutte pour le climat, l'accès à l'eau, la protection de la biodiversité, qui est au moins aussi importante que celle du climat. Et si je porte ce symbole-là, c'est parce que ces objectifs-là, tous ensemble, forment un tout qu'il est tout à fait intéressant d'essayer de considérer ensemble plutôt qu'en silo. Hein, parce qu'on a trop souvent, et beaucoup de décideurs politiques ont trop souvent l'habitude de dire « Ah ben, on est lundi, on va s'occuper de la pauvreté. On est mardi, on va s'occuper de l'énergie. Mercredi, on va s'occuper du climat. » Non, il faut voir les choses ensemble et on peut alors voir comme c'est beaucoup plus facile de s'occuper des choses ensemble.
Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Ce qui n'est pas assez le cas aujourd'hui. Hein, les ministères sont séparés, sont cloisonnés. Le ministère du climat ne parle pas assez au ministère de l'économie et vice-versa. Et on peut continuer la liste. Donc, une vision beaucoup plus intégrée des choses permettrait d'avancer beaucoup mieux.
Avec une vision qui est, je crois, l'horizon 2030 pour la réalisation de ces ODD, c'est-à-dire demain ou après-demain?
Oui, alors ça va être difficile, hein, d'autant plus qu'après le Covid, il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur pause. Mais je crois qu'il faut garder ces objectifs-là. Il faudra les mettre à jour à un moment donné, bien sûr. Mais je pense que l'habitabilité de la Terre, puisque c'est de cela qu'il s'agit, le partage des ressources de la Terre avec toutes les populations qui sont à sa surface, mais sont au cœur de ce qui devrait être la priorité numéro un.
Le rapport de synthèse du GIEC qui a été publié lundi dernier estime qu'il y a environ 10 ans pour que nos dirigeants puissent prendre les bonnes décisions, en tout cas les décisions nécessaires à la limitation du réchauffement climatique. Vous n'êtes pas tout à fait...
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette manière-là d'interpréter ce chiffre de 10 ans, parce qu'on pourrait croire que on a une période de 10 ans qui commence, qu'on peut y aller gentiment, qu'on peut même ne pas faire grand-chose pendant 9 ans et se réveiller la dixième année, et puis qu'au-delà des 10 ans, si on n'a pas atteint tous les objectifs, ben, soit c'est tout à fait perdu, soit il n'y a plus rien à faire parce qu'il fallait agir pendant ces 10 ans et qu'on n'a pas parlé de ce qu'il fallait faire au-delà. Non, je pense que ce n'est pas la bonne manière de faire. Il faut agir le plus vite possible. On aurait dû le commencer il y a 30 ans ou il y a 20 ans, et il faut y aller tous les jours. Pour à la fois protéger l'habitabilité de la Terre et améliorer le bien-être des populations qui sont à sa surface.
Les États ne vont pas assez vite, pas assez loin, alors qu'ils ont toutes les données scientifiques. Pourquoi ? Comment expliquez-vous cette situation ?
Et vous savez, le rapport du GIEC, c'est à peu près 10 000 pages qui ont été écrites pendant ce cycle de 8 ans. Le résumé de 35 pages, c'est vraiment la crème de la crème. Dans ces 10 000 pages, il y a au moins la moitié qui relève des éléments de solution. Des éléments de solution dans le domaine de l'adaptation, des éléments de solution dans le domaine des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, les informations pour agir, elles sont là. Mais je pense que beaucoup de décideurs les considèrent de manière trop isolée, sans se rendre compte de tous les bénéfices que l'on peut avoir dans d'autres domaines. Je vais prendre un exemple. Si dans les pays tempérés ou dans les pays froids, on isole beaucoup mieux les bâtiments, on va consommer moins d'énergie. L'énergie devient plus chère à certains moments pour des tas de raisons. Mais si on a mieux isolé les bâtiments, on va consommer moins d'énergie. Ça va être bon pour le climat, mais ça va être bon pour le portefeuille aussi de tout le monde. Ça va être bon pour l'activité économique parce que ces rénovations thermiques, elles vont générer de l'emploi. Donc on peut, dans bien des domaines, celui-là n'était qu'un exemple, avoir des co-bénéfices très importants.
C'est l'argent, le principal levier. Ce qu'on entend aussi dire, c'est que plus on attend, plus ça nous coûtera cher. Donc, est-ce que ça, c'est un discours que les dirigeants politiques que vous côtoyez, vous qui avez représenté aussi la Belgique là, récemment à cette remise de rapport, est-ce que c'est un argument qui leur parle ?
Alors c'est sûr que bien souvent les décideurs économiques raisonnent en fonction du coût des mesures à prendre. Je pense qu'il y a souvent de leur part une sous-estimation du coût de l'absence de mesures. Regardez les dégâts gigantesques qui sont causés et qui ne sont pas toujours monétisables et transformables en euros ou en dollars, causés par les sécheresses, les événements extrêmes, les inondations. Ce sont parfois des souffrances humaines très importantes. Et bien souvent, prévenir de tels effets, que ce soit par des mesures d'adaptation ou que ce soit en s'attaquant aux causes des changements climatiques, ça coûterait beaucoup moins cher que payer toutes ces factures à l'arrivée.
Est-ce qu'il est encore possible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, comme cela avait été fixé comme objectif dans l'accord de Paris en 2015?
Alors, ce que le dernier rapport du GIEC dit, c'est que la fenêtre pour y arriver, elle est devenue extrêmement étroite parce qu'on a tellement tardé. C'est un petit peu comme si on arrive sur un mur. Si on n'a pas freiné assez tôt, à la fin, il faut freiner très, très fort pour ne pas heurter le mur. Mais c'est encore possible. On n'a pas encore heurté le mur. Mais il faudrait une action beaucoup plus résolue et il faudrait des financements à la hauteur de ce qui est nécessaire, qui sont beaucoup plus importants que les financements actuels, notamment.
Et pour autant, est-ce que si cet objectif de 1,5 degré, effectivement, en tout cas, quand on discute, nous, avec beaucoup de scientifiques, climatologues ou d'autres experts, ils nous disent que c'est très peu probable que cet objectif soit maintenu, qu'on ne dépasse pas cet objectif-là. Est-ce que pour autant il faut le mettre de côté ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une finalité politique dans cet objectif qui, notamment à l'occasion de l'accord de Paris, avait permis aux États du Sud d'être aussi partie prenante de cet accord qui était ambitieux à l'époque ?
Mais d'abord, il faut se souvenir d'où vient cet objectif. Il n'a pas été choisi pour la facilité avec laquelle on pourrait l'atteindre. Il a été choisi parce qu'au-delà d'un degré et demi, hein, au-delà de 38 degrés et demi de notre température, pour faire la comparaison, les effets deviennent inacceptables, intolérables pour tellement de personnes et d'écosystèmes à la surface de la Terre. Donc, c'est quelque part, ce serait immoral de dire on abandonne cet objectif-là. Hein, c'est comme si on disait, pour les accidents sur les routes, on prend un autre objectif que zéro mort sur les routes chaque année. Ça devrait être ça, l'objectif, même si on sait que c'est très difficile d'atteindre un objectif comme celui-là. Donc, je pense qu'il faut garder l'objectif. Il faut faire absolument tout ce qu'il est possible de faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, quitter les combustibles fossiles le plus vite possible, développer un maximum l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et... surtout pour ceux qui émettent beaucoup, la sobriété, qui est un terme que l'on retrouve dans le rapport du GIEC.
On va en parler, oui.
Et si on fait tout ça, on peut y arriver. On arrivera peut-être à dépasser un petit peu un degré et demi et à y revenir un peu plus tard. Mais je pense qu'il faut garder cet objectif-là.
Avant de parler de sobriété, parlons d'autres solutions. Vous parliez des financements, mais ces financements, ils servent à financer, par définition, des solutions technologiques. Notamment, c'est ce que dit donc ce rapport du GIEC, certains observateurs vont même un peu plus loin, à l'image d'un médecin essayiste français, celui qui a fondé le site Doctissimo, Laurent Alexandre, qui dit « la technologie ne s'oppose pas à l'écologie, elle en est même la clé ». Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de voir les choses ?
Bon, je ferai juste une petite correction. Je dirais qu'elle est une clé, parce que bien sûr, on a besoin tous les jours et on aura besoin de technologies pour lutter contre les changements climatiques. Bien sûr, dire que c'est la seule clé, ça, je pense que ce serait une erreur.
Parmi les solutions technologiques, il y a notamment la géo-ingénierie. C'est-à-dire, c'est un ensemble de techniques qui utilisent, voire modifient le fonctionnement du système terrestre. Exemple de géo-ingénierie, le stockage, le captage de CO2 dans d'anciens gisements pétroliers. Cette solution est évoquée dans le rapport du GIEC, évoquée et critiquée parce que, disent certaines associations, cela pourrait être pris pour un permis de brûler du gaz et du pétrole encore dans les années qui viennent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Mais je suis à la fois d'accord avec les critiques qui sont exprimées par rapport à ces techniques-là et surtout l'espoir que certains ont et qui, à mon avis, est une illusion que cela pourrait résoudre entièrement le problème. Et en même temps, je pense que le problème est tellement vif qu'il faut mettre sur la table tous les éléments de solution que l'on peut additionner. Mmh. Et je pense que la capture du CO2 fait partie des solutions. Maintenant, croire qu'on va résoudre de cette manière-là plus que quelques pourcents du problème, ça, je crois que c'est une grande illusion. Notamment parce que les réservoirs de CO2 sont très limités en taille.
En matière de captage et stockage du CO2, c'est le Danemark a fait parler de lui il y a quelques jours, c'est le 8 mars, par l'inauguration, donc c'est en mer du Nord, d'un premier site de stockage du CO2, donc à 1,8 km sous les fonds océaniques. D'ailleurs, un peu pour la petite histoire, ça se passait dans un ancien gisement de pétrole. Ça pour dire que donc, pour la première fois, effectivement, le Danemark a fait acheminer du CO2 qui avait été liquéfié au préalable d'Allemagne jusqu'à ce site de stockage. Est-ce qu'on est dans une solution qui est pérenne et intéressante, sachant qu'il y a effectivement le fait de stocker du CO2, mais il y a aussi tout le processus qui induit ou qui contraint de transporter du CO2.
Oui, ça consomme beaucoup d'énergie.
Qui a été capté ailleurs, etc. Oui. Donc, est-ce que vous pensez que c'est une piste qu'on peut un peu dupliquer ou qui semble compliquée à dupliquer?
Je pense qu'il faut peut-être, pour certaines applications où il est très difficile de ne pas continuer à émettre du CO2, on peut avoir une petite contribution qui viendrait de ces techniques-là. Mais encore une fois, si on ne réduit pas très fortement la consommation de combustibles fossiles, on ne va pas arriver à stocker, à capturer et à stocker tout le CO2 qui serait généré. Donc ça peut contribuer, mais de manière marginale.
Et justement, il y a un autre aspect qui est évoqué par le rapport du GIEC. Alors, c'était le rapport de 2022, je crois, l'un des derniers rapports. C'est la question de la sobriété. C'était la première fois, je crois, que le GIEC consacrait un chapitre entier de ses travaux à la sobriété. Ce qui est une manière d'exposer un autre sujet, qui est un sujet important, qui est celui aussi de nos modes de vie, de nos modes de comportement. Est-ce que donc cette réflexion-là du GIEC, des experts du GIEC, est nouvelle en la matière ?
Oui, elle est nouvelle et elle est reflétée dans le rapport de synthèse. Elle est reflétée, si vous permettez, grâce à la délégation belge qui a, par ma voix, insisté pour que ce concept soit remis dans le résumé parce qu'il n'y était pas. Donc le mot sobriété s'y trouve finalement. Et je crois que c'est quelque chose de très important. Quand on regarde les émissions par habitant à l'échelle de la planète, elles sont très différentes en Afrique, où on a des émissions de moins de 2 tonnes par habitant et par an, alors que dans d'autres régions du monde, on a des chiffres qui dépassent parfois 20 tonnes par habitant et par an. Et ce sont évidemment pas ceux qui émettent 2 tonnes par an qui doivent être sobres. Ceux-là sont dans une sobriété forcée, souvent forcée par la pauvreté. Mais par contre, ceux qui émettent beaucoup, que ce soit parce qu'ils utilisent des jets privés ou qu'ils ont des logements tout à fait faramineux et qui consomment beaucoup d'énergie, ceux-là doivent aller vers davantage de sobriété.
Ce qu'il y a avec la sobriété, et Simon Roger faisait allusion, c'est un changement radical du mode de vie, particulièrement du mode de vie occidental. Vous y faisiez référence aussi, Jean-Pascal Van Ypersel, un changement d'habitude, un changement de modèle. Est-ce que ce changement est indispensable et est-ce qu'il doit être immédiat ?
Mais c'est ce que le GIEC dit, et ce n'est pas de l'idéologie, c'est la réalité. Si on veut protéger l'habitabilité de la seule planète habitable du système solaire, qui est notre maison commune, il faut absolument qu'on arrête d'épaissir cette couche d'isolant thermique que nous installons petit à petit autour de la Terre avec nos gaz à effet de serre. Et donc, il faut transformer l'économie mondiale, transformer la manière dont nous consommons, dont nous utilisons les ressources dans tous les domaines, que ce soit l'alimentation, on doit aller vers une consommation de viande moins importante, par exemple, la manière dont nous nous déplaçons, moins de déplacements individuels dans des voies que l'on conduit tout seul, davantage de transports publics, de mobilité douce, des logements beaucoup plus efficaces, une agriculture qui impacte moins l'environnement. Donc c'est vraiment dans tous les domaines que cette transformation, dans laquelle il y a une part de sobriété, est nécessaire.
Il y a donc une transformation, et avec des solutions, on en a évoqué quelques-unes. Il y a aussi une adaptation, parce que les effets du réchauffement climatique, ils sont là, hein, et on ne va pas attendre, ils sont présents. Et on le voit avec les sécheresses que vous avez mentionnées tout à l'heure, les incendies notamment, et puis parfois la montée des eaux aussi hein, sur certaines côtes. Le niveau de la mer devrait monter de 30 cm en moyenne d'ici 2050, et ce, quels que soient nos efforts. Certains architectes réfléchissent donc à des solutions d'adaptation. C'est le cas d'un Néerlandais, Cohen Holthuis, qui a rencontré une équipe d'envoyés spéciaux de France 2.
Vous savez, les villes doivent évoluer. L'eau qui monte, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. On doit pouvoir l'utiliser pour rendre nos villes plus performantes. Le concept est assez simple, c'est la flottaison. Si vous construisez sur l'eau, la base, c'est que ça flotte comme un bateau. Et là, c'est une nouvelle technologie que je trouve passionnante. C'est une maison qui flotte, qui supporte très bien les petites vagues. En cas de tempête, il vous suffit d'appuyer sur un bouton et hop, la maison s'élève de 6 mètres au-dessus de la surface. Et les vagues ne peuvent plus la toucher. Quand la tempête est terminée, elle redescend. Et vous pouvez la déplacer.
Cohen conçoit aussi des immeubles flottants. Des quartiers entièrement sur l'eau. Pour lui, le changement climatique nous oblige à entrer dans une nouvelle ère, celle des villes mobiles.
Voilà, des villes mobiles, des villes qui arrivent à évoluer sur l'eau parce que le niveau d'eau des mers monte. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ces projets ?
Mais je pense qu'il faut aller dans cette direction-là. Il faut s'adapter à la partie des changements climatiques qui est devenue inévitable en partie. Il y a une partie qui est devenue inévitable, il y a une partie qui est là aussi. Mm-hmm. Il y a un mois, j'étais au Bangladesh, j'ai vu des maisons résistantes aux cyclones qui étaient construites. Et je pense qu'il faut aller dans cette direction-là.
Une opportunité, disait dans cet extrait d'envoyé spécial cet architecte néerlandais. Le mot peut surprendre. Est-ce qu'il vous choque, vous surprend ?
Non, je pense qu'il faut voir les opportunités là où elles sont aussi. On a besoin d'activité économique et si on effectue cette transformation des infrastructures existantes dans les pays développés et cette installation de nouvelles infrastructures résilientes, résistantes au changement climatique et aux chocs dans les pays en développement, ben on va avoir beaucoup d'opportunités économiques en fait.
Simon Roger.
La France, par la voix de son ministère de la transition écologique, a mis en place il y a quelques jours un comité ministériel de pilotage sur la question de l'adaptation au changement climatique, avec d'ailleurs comme base de référence, deux bases de référence différentes, deux trajectoires différentes, qui est celle de plus de degrés de réchauffement et plus 4 degrés de réchauffement. Donc tout ça est très embryonnaire, donc on va voir comment les choses évoluent. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte de bonne méthode d'avoir, un peu comme le fait le GIEC, mais sauf que le GIEC a plusieurs scénarios, là on n'en prend que deux, donc de raisonner sur deux scénarios de réchauffement climatique? Et au-delà de ça, est-ce que c'est important que les pouvoirs publics en France comme ailleurs s'emparent de cette question de l'adaptation, ou il faut laisser ça plutôt à la sphère du privé ou des choses plus individuelles?
Mais je pense que tant dans le domaine de l'adaptation que de l'atténuation, ce sont tous les acteurs qui ensemble doivent travailler, des citoyens aux décideurs politiques les plus élevés, en passant par les acteurs économiques. Parce que ce ne sont pas les citoyens qui décident de construire les infrastructures nécessaires comme ceci ou comme cela. Maintenant, pour revenir à votre question, d'abord, 2 ou 4 degrés, c'est probablement 2 ou 4 degrés en France.
Hein, oui,
donc
tout
il
à
faut
fait.
Faire attention, ce n'est pas 2 ou 4 degrés au niveau global. Et on peut se dire qui peut le plus peut le moins. Donc si on réfléchit, je pense que c'est intéressant de réfléchir à cela, à ce qui serait nécessaire au cas où la température s'élèverait de 4 degrés en France, ben, forcément, on aura moins d'impact, même si le climat ne se détériore pas autant que cela. Mais il faut quand même constater qu'aujourd'hui, on est aussi en route plutôt vers des températures élevées que des températures basses. Hein.
4 degrés en France, c'est d'ailleurs Christophe Béchu le disait lui-même, c'est une sorte de réflexion profonde sur la fin des stations de ski, ou en tout cas la question de l'enneigement des stations de ski, puisque la France dispose de massifs montagneux intéressants. C'est aussi, Antoine parlait du littoral, des évolutions très très notables de l'aménagement du littoral français.
Oui, vous savez, j'ai fait le Mont Blanc il y a 2 ans, et au sommet du Mont Blanc, j'ai montré cette image, disant la glace fond, il est urgent d'agir, et c'était le jour où les ministres européens étaient en train de finaliser leur package de décision sur le Green Deal. Donc je suis bien conscient de ce qui se passe dans les montagnes et de ce qu'il faut faire, non seulement en France, mais partout dans le monde, parce que les montagnes jouent un rôle très important dans l'approvisionnement en eau. Ce n'est pas seulement pour le ski.
Bien sûr. Hein,
dans les Andes, par exemple, les montagnes servent de réservoir d'eau. Hein, et si les glaciers plutôt servent de réservoir d'eau, et si ces glaciers fondent, ce sont toutes les populations locales qui sont en aval, qui n'ont plus d'eau tout au long de l'année, mais n'en ont que quand il pleut. Dans les régions tropicales, il ne pleut que 2 mois par an. Donc c'est très grave, la fonte des glaciers dans les montagnes.
Le constat que nous dressons depuis le début de cette émission n'est pas franchement très réjouissant, il est même assez inquiétant. Est-ce qu'il y a, cela dit, quelques bonnes nouvelles sur le front climatique, Jean-Pascal Van Ipperzeel?
Mais je dirais que la principale bonne nouvelle, ce sont les 5000 pages d'éléments de solution dans le rapport du GIEC qui n'attendent qu'à être saisies. C'est l'observation dans le rapport de synthèse du GIEC qui vient d'être adopté, que l'argent nécessaire pour agir est là dans le monde, mais bien souvent il dort dans les banques, soit à ne rien faire, soit encore aujourd'hui, malheureusement, à trop financer des infrastructures fossiles, alors que le GIEC a dit qu'il fallait absolument arrêter d'investir dans ce domaine-là. Donc, je crois que la bonne nouvelle, c'est que l'on sait ce qu'il faut faire. Maintenant, l'étape suivante, c'est de faire ce qu'il faut faire.
Sachant que les 5000 pages dont vous parlez, le GIEC le dit d'ailleurs dans son rapport, c'est quand même un guide de survie. Donc, un guide de survie, ce n'est pas non plus très, très réjouissant. Donc, ça montre que la menace est quand même réelle et grandissante.
Ah, il serait grand temps de se ressaisir, effectivement. Hein.
Donc de se ressaisir et saisir peut-être ces solutions proposées par le GIEC.
Oui.
Ça, c'est le rôle des dirigeants politiques. Le GIEC, on commence à on le comprend, hein, est composé de scientifiques qui écrivent des rapports, qui travaillent sur des données scientifiques. Et puis il y a aussi les États qui sont mêlés, intégrés au GIEC. Les rapports du GIEC sont donc écrits par des scientifiques qui subissent parfois des pressions politiques. C'est ce qu'explique une chercheuse, Carrie De Prick. Elle dit « Les scientifiques du GIEC ont le dernier mot s'ils ne remettent pas en question les intérêts des grandes puissances ». C'est ce qu'elle dit dans un entretien accordé au journal Le Monde et publié lundi dernier. Vous qui avez été membre du GIEC, qui représentait auprès du GIEC un État, la Belgique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Que dites-vous de ces propos?
Ah, en tout cas, il y a une tension claire entre les constats scientifiques et ce que les scientifiques écrivent et ce que les États voudraient lire.
Qui a le dernier mot?
Alors, ça dépend sur quoi? Sur ce qu'il y a dans les textes du GIEC, ce sont principalement les scientifiques. Là où ils n'ont pas le dernier mot, c'est sur ce qu'ils ne s'y trouvent pas. Ce qui ne s'y trouve pas dans les résumés. Parce que le GIEC travaille par consensus lors des assemblées plénières. Et alors pour l'approbation, ligne par ligne, des résumés pour les décideurs, s'il n'y a pas consensus sur un paragraphe et si on n'a plus le temps de continuer à discuter, bien on décide de l'effacer. On efface la phrase ou le paragraphe. Mais on peut toujours le retrouver dans le rapport lui-même. Donc les auteurs ont largement le dernier mot pour le corps du texte et ils ont un petit peu moins le dernier mot pour le résumé pour les décideurs.
Dans le rapport des rapports dont on parle depuis le début de l'émission, il y a eu, je crois, plus de 2 jours de retard par rapport au processus d'approbation. Ça s'est passé un dimanche après-midi. D'ailleurs, à un moment, ce qui pose question sur le plan du multilatéralisme, où certaines délégations étaient reparties, notamment les pays les plus vulnérables qui n'ont pas forcément les moyens de rester une semaine à Interlaken, etc.
Interlaken en Suisse, hein, c'est là que se déroulait la réunion.
Oui, où s'est déroulée cette session d'approbation, en tout cas la finalisation des travaux. Est-ce qu'il n'y a pas un souci ?
Il y a un gros souci d'inclusivité au GIEC, un souci général d'ailleurs, ce n'est pas seulement lié à la manière dont s'est terminée cette réunion. Nous l'avons regretté au nom de la Belgique quand ça s'est passé, et je pense que si j'étais président, l'inclusivité sera au cœur de mon action. Je pense que le GIEC, qui doit vraiment être la voix du climat, qui n'a pas la parole dans les négociations climatiques, doit aussi être beaucoup plus inclusif par rapport aux scientifiques des pays en développement, des pays les plus vulnérables en particulier, par rapport aux femmes qui sont toujours trop peu nombreuses dans le système, par rapport aux jeunes auteurs aussi, hein, parce qu'il y a de plus en plus de scientifiques qui ont déjà participé longtemps au GIEC, et je pense que certains d'entre eux devraient laisser la place à des plus jeunes. Il faut trouver le bon équilibre. Donc l'inclusivité, c'est vraiment un élément essentiel de mon programme, et donc j'espère que ce qui vient de se passer ne se reproduira plus à l'avenir.
On va parler de votre programme dans quelques instants, Jean-Pascal Van Ypersel. Avant cela, encore un mot sur ce 6e rapport du GIEC, rapport global et rapport de synthèse. Ces textes vont servir de base aux prochaines négociations internationales, à commencer par celles qui vont être menées à la fin de l'année à Dubaï lors de la COP28. Qu'est-ce que vous attendez de ces discussions et de cette prochaine COP ?
Alors, vous savez, j'ai assisté et participé comme conseiller scientifique, soit de la délégation belge, soit une fois d'une délégation d'un pays en développement, d'une petite île, Fidji en l'occurrence, à presque toutes les COP, depuis la première. J'en ai manqué 2 sur toute la série. Et presque chaque fois, quand des journalistes me demandaient « Mais qu'est-ce que vous retirez de cette COP ?» Après, je dirais « Mais j'aurais pu vous dire avant ce que je vais vous dire maintenant, à savoir on a fait un petit pas en avant et il est entre 10 et 100 fois trop petit par rapport à ce qu'il faudrait faire. » Donc je pense qu'à la COP28, on va faire un petit pas en avant sur différents sujets et je crains qu'encore une fois, ce sera trop peu. Mais voilà, on avance, ça c'est la petite bonne nouvelle.
Est-ce que c'est le moins mauvais des systèmes, ce système de COP ? Est-ce qu'il faudrait créer autre chose pour avancer plus vite, plus rapidement et plus loin ?
Quelle serait l'alternative, hein ? Je ne pense pas que qui que ce soit pourrait souhaiter qu'il y ait une grande dictature mondiale avec un dictateur vert éclairé, hein, qui ne resterait sans doute pas au pouvoir très longtemps et qui ne serait pas si éclairé que cela probablement. Donc je crois qu'on est quelque part condamné à discuter tous ensemble. Peut-être que la manière dont on discute devrait être améliorée, que ce soit au COP ou que ce soit au GIEC. Il y a d'ailleurs des chercheurs qui réfléchissent à ce genre de choses. Mais bon, on est tous ensemble sur cette planète, sur ce bateau-là qui est un petit peu à la dérive pour le moment. Il faut qu'on, malgré les intérêts divergents, malgré les points de vue différents, il faut qu'on continue à discuter de cette manière qui est difficile pour le moment. Peut-être qu'un jour, on fera mieux, mais il n'y a pas d'alternative immédiate, en tout cas.
Et est-ce qu'il n'y a pas une réforme à mener qui consisterait peut-être à fusionner, en tout cas à faire coïncider les 3 COP, puisqu'en fait le processus onusien a mis en place 3 COP. Il y a celle qu'on connaît bien sur le climat, il y a aussi une COP de la biodiversité, et il y a enfin une COP sur la question de l'usage des terres et sur les questions de désertification. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans la mesure où je pense qu'on est globalement d'accord qu'on est dans une crise systémique qui mêle le climat, la biodiversité et plein d'autres aspects, il faudrait peut-être faire une seule et même COP de manière régulière plutôt qu'en 3 COP, avec en plus des calendriers et des régularités différentes ?
Peut-être qu'il faudrait aller dans cette direction-là. En tout cas, décloisonner, je crois que c'est quelque chose qu'il faut faire dans pas mal de domaines et probablement que le processus des COP aurait tout intérêt à être un peu plus décloisonné aussi, oui.
Et si je peux revenir juste sur la COP28 dont parlait Antoine, le fait de confier, alors je sais qu'il y a un processus de rotation géographique qui explique donc l'attribution de cette COP28 à un pays du Moyen-Orient, en l'occurrence donc les Émirats Arabes Unis. Le fait de confier le pilotage de cette COP à Sultan Al-Jaber, donc est un Émirati, et qui par ailleurs est certes ministre, mais aussi le président de la plus grande compagnie pétrolière émirati, est-ce que c'est pas, si ce n'est une erreur, en tout cas une erreur ou une maladresse, voire une provocation, sachant qu'on sait tous que c'est le secteur fossile qui est le, pas le seul évidemment, mais le plus gros responsable des émissions de gaz à effet de serre?
Alors, la première chose que je voulais dire, c'est que les Émirats Arabes Unis, c'est l'endroit où s'est réuni le GIEC en 2011, quand il a finalisé, et c'était à l'invitation des Émirats Arabes Unis, son rapport spécial sur les énergies renouvelables. Et je crois que c'était un choix délibéré des Émirats à ce moment-là, parce qu'ils sont en transition. Je crois qu'ils ont compris, et le sultan Al-Jaber a bien compris, que les combustibles fossiles n'étaient pas...
Ils accueillent d'ailleurs l'agence internationale.
L'agence internationale.
Elle est basée là-bas.
IRENA, ouais. L'agence internationale sur les énergies renouvelables. Donc, je crois qu'ils sont en transition. Je pense personnellement qu'il aurait peut-être dû envisager, et pourrait encore le faire d'ailleurs, de quitter, ne fût-ce que temporairement, son job de CEO, de patron de la compagnie pétrolière
ADNOC,
en question.
C'est le ADNOC.
De ADNOC. Mais sinon, je l'ai senti, je l'ai rencontré il y a un mois, je l'ai senti très déterminé à faire de la COP28 un succès. Et donc, je crois qu'il faut lui laisser le bénéfice du doute. Il faut peut-être espérer qu'il mette entre parenthèses son mandat à ADNOC, mais je crois que comme président, il pourrait être un très bon président.
Bon, très déterminé, on verra si ce sera donc à la fin un petit ou un grand pas sur le chemin de la lutte contre le réchauffement climatique. Le rapport de synthèse du GIEC aborde aussi le sujet, et vous en avez parlé déjà, Jean-Pascal Van Ipperzel, de l'injustice climatique. Sujet dont il sera aussi question lors de la COP28, sujet essentiel qui doit permettre aux pays les moins pollueurs, mais les plus touchés par les effets du réchauffement, d'être aidés par ceux qui polluent le plus. Exemple au Maroc, avec des nomades qui souffrent de sécheresse de plus en plus intense, notamment l'an dernier. Voici le court témoignage de l'un de leurs représentants.
Il n'y a plus de chute de neige comme avant qui permettait d'alimenter la nappe phréatique. Tout a séché, les rivières, les puits, et les pauvres nomades sont coincés. Il ne reste qu'un seul point d'eau pour eux ici, et si la sécheresse frappe cet endroit aussi, eh bien ils n'auront plus rien.
Qu'est-ce que cela vous inspire? Qu'est-ce que ce témoignage, cette réalité vous inspire?
La première chose que ça m'inspire, c'est que je pense... Pas mal de négociateurs climatiques, de dirigeants politiques ne sont pas assez en contact avec la réalité du terrain. Et les souffrances qui sont aujourd'hui engendrées par les effets des changements climatiques ou plus généralement la dégradation de l'environnement d'ailleurs, parce qu'effectivement la crise de la biodiversité, la désertification, la pollution par le plastique, etc., a toute une série de conséquences, notamment sur la santé humaine, qui sont aujourd'hui, dans certains cas, terribles. Et je pense qu'il n'y a pas une assez grande conscience de la part de pas mal de dirigeants politiques de ce qui se passe au niveau des populations qui sont les plus vulnérables. Et il y a effectivement une double injustice, parce que ce sont à la fois les populations qui sont les plus vulnérables, les plus soumises à ces effets, et celles qui ont contribué le moins au problème, que ce soit le problème du climat ou que ce soit le problème de la pollution liée à la surconsommation de plastique, par exemple. Et donc, il faut absolument prendre en compte ces questions d'équité beaucoup plus, ce que dit d'ailleurs le dernier rapport du GIEC.
Jean-Pascal Van Ipperzel, vous parlez de double injustice, mais il y a aussi une responsabilité historique. C'est comme ça que d'ailleurs c'est stipulé dans les textes constitutifs des COP, qui est celle des pays du Nord, qui sont les premiers à avoir émis massivement des gaz à effet de serre. Donc, est-ce qu'il ne serait pas temps aussi que les pays du Nord, comme on le dit et redit, en tout cas comme c'est un des enjeux importants des COP climat notamment, finance davantage et participe davantage au financement des actions d'adaptation ou ce fameux fonds qui devrait voir le jour pour financer, moi, en tout cas réparer les dégâts irréversibles déjà causés par le changement climatique.
Mais bien sûr. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose qui est trop peu connu. Le GIEC a été créé en 1988. La Convention sur les changements climatiques date de 1992. C'est dans une annexe du premier rapport du GIEC publié en 1990 que les éléments clés du texte de la Convention ont été définis. Eh bien, dans ces éléments clés, en 1990, donc il y a plus de 30 ans déjà, se trouvait cette question de la prise en compte des responsabilités historiques, de la nécessité du financement de la part des plus responsables des effets des changements climatiques, etc. Donc le GIEC a ce discours-là depuis longtemps. Et c'est une question, c'est tellement évident hein, que ce sont les, c'est le principe du pollueur-payeur et qui n'est pas assez mis en compte. Quand on voit les sommes énormes qui ont été dégagées comme ça quand il y a eu le Covid dans les pays développés et qu'on a tant de mal à réunir cette somme de 100 milliards de dollars par an qui, à l'échelle du monde, n'est rien du tout. C'est tout à fait insuffisant par rapport aux besoins.
Qui, je le rappelle, la somme promise par une COP en 2009.
En 2009, oui.
Nous sommes en 2023.
Donc 100 milliards de dollars par an des pays développés vers les pays en développement, et ces 100 milliards de dollars par an qui devaient être là à partir de 2020 au plus tard, ils ne sont toujours pas là. On est à 80 et encore, c'est en comptant large. Hein.
Un mot rapide, Jean-Pascal Van Ipperzel, sur la conférence qui a eu lieu cette semaine à New York sur l'eau, organisée par les Nations Unies. Ça faisait près d'un demi-siècle qu'il n'y avait pas eu une telle conférence à ce niveau-là. Il y a aussi des questions d'injustice liées à l'eau. Hein. Il y a des pays qui sont en stress hydrique majeur, bien plus que d'autres pays. Quel est le lien que vous faites entre cette crise de l'eau, qui commence, une crise risque imminent hein, de crise, dit l'ONU, et le réchauffement climatique ?
Les liens sont multiples. Hein. L'accès à l'eau, les problèmes de sécheresse qui impactent aussi bien la disponibilité en eau pour les populations que l'agriculture font partie des principaux impacts des changements climatiques. Et quand on parlait d'adaptation tout à l'heure, tout ce qui concerne l'eau, une meilleure gestion de l'eau, une réduction des gaspillages, des changements concernant la demande aussi. Hein. Est-ce que cultiver du maïs pour nourrir du bétail consommé par ceux qui mangent beaucoup de viande, est-ce que c'est encore la meilleure chose à faire dans les régions où les quantités d'eau sont en diminution ? Donc il y a une réflexion dans de nombreux domaines qui se trouvent à l'interface eau et changement climatique, et aussi souvent biodiversité d'ailleurs.
En clôture de cette conférence que vient de mentionner Antoine, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à un changement de cap, et plus précisément à un changement de cap basé sur la science. Est-ce que ce n'est pas une petite phrase qui pourrait imaginer un GIEC de l'eau comme il existe pour le climat, donc depuis 88, comme vous le dites, ou un GIEC qui n'a pas le même acronyme, puisque c'est l'IPBES, donc une plateforme intergouvernementale, scientifique et politique sur la biodiversité. Donc un GIEC de l'eau, oui. Sera-t-il, si ce n'est la solution, en tout cas un outil intéressant?
Et en même temps, est-ce qu'il faut créer de nouveaux silos hein, ou avoir un GIEC pour le climat, un GIEC pour la biodiversité, enfin, qui existe déjà, un GIEC pour l'eau, un GIEC pour le plastique, etc. Ou est-ce qu'il faut partir de ce qui existe et peut-être avoir davantage de coordination, de synergie, de discussion ensemble, comme vous le suggériez tout à l'heure pour les COP? Je crois que c'est une réflexion à avoir, mais avoir une instance au niveau des Nations Unies qui s'occupe le mieux possible et de la manière la plus coordonnée possible avec la gestion des autres problèmes de l'eau est certainement important. Oui.
Face à ce constat, il faut agir donc et faire pression le plus possible sur les décideurs politiques. En tout cas, c'est ce que vous laissez entendre. C'est ce que font des millions de manifestants depuis plusieurs années maintenant. Il y a des scientifiques aussi qui s'y mettent désormais, des scientifiques qui sortent de leur laboratoire, de leur rapport. Exemple avec une universitaire suisse, Julia Steinberger, vous connaissez peut-être, elle est professeure d'économie écologique à Lausanne. Elle est aussi membre d'une ONG, Renovate Switzerland, Rénover la Suisse, et elle a déjà participé à des actions symboliques et médiatiques, extraits du portrait que lui a consacré la RTS, c'était en fin d'année dernière.
Co-auteur du dernier rapport du GIEC, cette professeure de l'UNIL ne cache pas son militantisme. Comme ici à Berne, où elle bloque l'autoroute A6 avec le groupe Renovate Switzerland.
Le gouvernement n'agit pas pour le réchauffement climatique et il nous reste très peu de temps.
La vidéo fait polémique. Julia Steinberger agace, dérange. Son militantisme, jugé trop radical, irrite certains. Pour elle, désobéissance civile et science sont intimement liées.
Il faut être cohérent avec le savoir scientifique que nous portons. Nous avons l'information, la connaissance absolument essentielle que l'humanité court à sa perte dans une échéance très courte et qu'il faut agir tout de suite. Et c'est pour ça qu'il faut pour ma part, prendre tous les moyens possibles et nécessaires, descendre dans la rue, pointer du doigt les institutions qui font défaillance.
Vie privée ou publique, Julia Steinberger fonce sans craindre la tempête.
Que dites-vous de ces scientifiques qui n'en peuvent plus de ne pas être entendus par les gouvernants et qui décident donc de mener des actions ?
Quelque part, je les comprends, hein, parce que c'est très frustrant de répéter la même chose depuis tellement longtemps et de voir que si peu se passe. Maintenant, il y a 36 manières différentes d'agir. La manière de Julia Steinberger n'est pas celle que j'utilise. Moi, je préfère, par exemple, porter des cravates qui signifient quelque chose. Parfois, je manifeste pacifiquement aussi, mais pas dans le même type d'action. Donc, je crois qu'il y a une diversité de manières d'agir et qui sont complémentaires. Donc, Je respecte cette manière-là de faire.
Est-ce que vous êtes en colère, vous aussi, contre les dirigeants politiques qui ne vont pas assez vite, pas assez loin ?
Oui, j'essaie de ne pas être trop en colère, parce que la colère, ça peut mobiliser des forces qu'on ne peut pas leur mettre au service du changement. Donc j'essaie plutôt de rester calme, d'être dans l'explication, la conviction, l'écoute aussi. Voilà, ça, c'est ma manière de faire.
Simon Roger.
Dans l'extrait qu'on vient de passer, on voit à l'écran le logo de Extinction Rebellion, qui est un mouvement donc, de désobéissance civile, donc parti d'Angleterre, qui a rayonné depuis, jusqu'à la France, et qui a décidé aussi, il y a quelques semaines, de se mettre en retrait, en tout cas d'arrêter ces actions de désobéissance civile, parfois un petit peu dures, pour proposer une grande mobilisation qui aura lieu, je crois, au mois d'avril. Est-ce que là aussi, ça veut dire, je reviens un peu à cette question de l'essoufflement, ou alors il faut trouver d'autres formes de mobilisation et ces actions-là ne sont pas forcément les plus efficaces ou les plus écoutées ?
Bon, je ne suis pas spécialiste de la mobilisation et je ne savais même pas que Extinction Rebellion avait changé de stratégie.
Peut-être provisoirement, mais de se mettre en retrait, en effet.
Mais bon, il y a différentes manières d'agir, c'est complémentaire. À des moments différents, des manières différentes d'agir peuvent porter différemment. Je pense que toutes les méthodes, tant qu'elles sont pacifiques et non violentes, convergent sans doute vers le changement dont beaucoup de monde rêve. Il y a différentes manières de faire et voilà.
Il nous reste 5 minutes dans cette émission, Jean-Pascal Van Ipperzel. Vous parliez des jeunes tout à l'heure, des jeunes chercheurs, mais des jeunes aussi manifestants hein, qui voudraient voir le monde changer et changer vite. Parmi ces jeunes, il y a beaucoup d'entre eux qui souffrent de déco-anxiété. Qu'est-ce que vous leur dites à ces jeunes-là ?
Oui, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup et mon épouse qui est thérapeute accompagne un certain nombre de ces jeunes.
Ces jeunes qui souffrent d'éco-anxiété.
De ces jeunes qui de ces jeunes et moins jeunes d'ailleurs, oui. Parce qu'il n'y a pas que des jeunes qui souffrent d'éco-anxiété. Je pense que en partie ça vient d'une perte du sentiment que l'on peut agir. Et je crois que si on arrive à redonner sens à l'action que chacun d'entre nous peut avoir, et quand je dis cela, je ne dis pas que c'est en fermant le robinet quand on se lave les dents ou en éteignant uniquement la lumière quand on sort d'une pièce, mais c'est aussi en décidant pour qui on vote quand il y a des élections, aussi en décidant où on met son argent quand on investit ses économies, éventuellement dans les choix que l'on fait au quotidien. Quand on se rend compte que toutes ces manières-là d'agir permettent d'avoir une influence, hein, ou que ce soit peut-être en ayant des actions comme celle d'Extinction Rebellion. Je pense que si davantage de jeunes avaient le sentiment que leur action peut porter, qu'ils peuvent être écoutés, je pense qu'il y aurait sans doute une diminution du niveau d'anxiété. Mais bon, ce n'est pas la réponse parfaite, hein. Je comprends bien que la situation est difficile.
Quelques mots encore sur votre candidature à la présidence du GIEC. L'élection aura lieu cet été, au mois de juillet. Vous avez déjà dit, en quelques mots, présenté les grands axes de cette candidature. Vous êtes le seul candidat francophone, hein, d'ailleurs, actuellement déclaré. En tout cas, le processus officiel va commencer la semaine prochaine. Sur quoi se joue une telle élection ? Vous qui avez déjà participé hein, en 2015 et qui avez été battu.
Alors, c'est une élection à un pays, une voix. Il y a à peu près 150 pays qui participent. Donc, il faut que je convainque entre 70 et 80 pays de voter pour moi, au moins au deuxième tour de l'élection. La fois dernière, j'en ai eu 56. Donc, il faut que j'en ai un petit peu plus. Ça se joue sur les qualités du candidat, mais aussi sur la manière dont les pays perçoivent que ce candidat peut défendre les intérêts communs de l'humanité. Enfin, j'espère que c'est surtout ça le critère, parce que le GIEC doit être la voix du climat.
Oui, mais il y a des intérêts particuliers aussi, bien encore sûr. Aujourd'hui, État par État.
Bien sûr, donc c'est sûr que ce n'est pas simple. Hein, je ne suis pas naïf non plus. Mais il y a aussi des pays qui ont des intérêts particuliers, qui peuvent comprendre que des synergies peuvent être trouvées entre la défense de certains de ces intérêts et une transformation de leur économie, une diversification. Les pays pétroliers, ils savent que le pétrole n'est pas infini, qu'ils vont devoir tôt ou tard changer leurs sources de revenus.
Donc, le plus tard possible.
Mais le plus
pour eux, selon eux.
Le plus tard possible, ou au contraire, plutôt, ils font les investissements nécessaires pour faire la transition vers d'autres sources d'énergie. Mieux ce sera aussi, ce sera plus facile.
Ce sont quand même souvent les pays bloquants pour les COP ou même le processus. On parlait d'approbation des travaux du GIEC. L'Arabie Saoudite et d'autres pays n'ont pas été très très allants. C'est le moins qu'on le puisse dire.
D'accord. Maintenant, ils n'ont pas la majorité, c'est pas la majorité des pays non plus. Il y a beaucoup de pays vulnérables qui eux demandent que le GIEC soit plus inclusif, tienne mieux compte de leurs problèmes, espèrent que le GIEC va leur apporter des solutions possibles à mettre en œuvre, être la voix du climat. Et donc ça, je crois que c'est important aussi.
Est-ce que vous parlez de majorité, est-ce que ça serait naïf d'imaginer un changement de fonctionnement du GIEC et laisser de côté ce principe de consensus qui est un peu la base du GIEC et qui est aussi l'explication des blocages et des messages parfois peut-être un peu trop conservateurs du GIEC? Est-ce qu'on pourrait imaginer que le consensus soit arrêté pour des principes différents d'approbation par des majorités qualifiées, ce genre de choses, ou ça paraît totalement hors propos dans le cadre international qui est celui du GIEC?
On pourrait l'imaginer, mais c'est un petit peu comme aux Nations Unies pour bien des domaines. Pour décider d'une telle réforme de structure, si fondamentale, il faudrait passer par le consensus pour aller dans cette direction-là. Et donc, je pense que passer beaucoup d'énergie à essayer d'obtenir ça, c'est sans doute de l'énergie qui risque d'être en large mesure gaspillée.
Est-ce qu'il faut encore des rapports du GIEC? Après ce sixième rapport, des scientifiques ont dit mais le GIEC pourrait fermer boutique, pas besoin d'un septième, puis d'un huitième rapport, ça y est, on a fait notre boulot, toutes les données scientifiques sont là.
C'est des climatologues qui ont dit ça. Il n'y a pas que des climatologues au GIEC, il y a aussi des économistes, des ingénieurs. Il devrait y avoir davantage de scientifiques de sciences sociales pour faire les prochains rapports du GIEC, bien sûr avec les données climatiques essentielles, mais aussi tout ce qui concerne les solutions, les obstacles à la mise en œuvre des solutions, ce qui permettrait de faciliter les solutions, y compris les questions de financement. Donc il y a énormément de sujets qui n'ont pas encore été traités d'une manière tout à fait intégrée au service de l'ensemble des pays membres du GIEC. Et donc, je crois que le GIEC a encore beaucoup de travail à faire. Mais il faut le faire autrement.
Il nous reste une minute. Je voudrais dire un mot d'un grand scientifique qui s'est éteint cette semaine, un grand climatologue, le français Claude Lorius. Il avait 91 ans. Ce sont ses travaux qui, entre autres, sont à l'origine de la création du GIEC en 1988. Qu'est-ce qu'il a apporté en quelques mots à la lutte contre le changement climatique?
J'étais très ému, je dois dire, quand j'ai vu qu'il était décédé. J'ai rencontré encore il y a 2-3 ans. Il a fait beaucoup d'explorations en Antarctique et il a notamment fait toute une série de sondages dans la glace, analyser les petites bulles d'air qui sont piégées dans cette glace, qui c'est de l'air fossile, plus on descend, plus c'est de l'air ancien, et il a réussi à montrer, en analysant la composition de cet air de manière très fine, d'une part que les niveaux de CO2 avaient varié au cours des 800 000 dernières années, que les niveaux de CO2 élevés étaient associés à des niveaux de température élevés et à des niveaux d'eau. Élevé aussi à cause de la fonte des grandes calottes glaciaires. Donc ce recul sur l'évolution du climat passé est très important et la compréhension qu'il a amenée a été très importante pour s'intéresser au climat du futur.
Merci beaucoup Jean-Pascal Van Ypersel, merci d'avoir répondu à nos questions. Votre portrait, Le Focus, que nous sommes désolés de ne pas avoir pu diffuser dans cette émission, est à retrouver sur les réseaux sociaux de TV5 Monde et d'International. J'en profite pour parler de cette lettre rapidement, la plateforme Wallonne pour le GIEC que vous éditez et qui donne des informations régulièrement sur les travaux du GIEC. Merci beaucoup, Simon Roger, du journal Le Monde, et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.